Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre. Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 1, 2, 3, 4.
Les deux imbéciles devaient avoir raison. Je suis un poissard. Quand je regarde autour de moi, c'est la désolation. Je suis l'un des derniers à être évacué de Los Angeles, encore pour quelques heures, au milieu des ruines de l'entrepôt D-177, dont j'ai assuré la sécurité pendant presque 4 ans. Un travail titanesque, cette évacuation. Ça a pris plus de 3 mois. Pourquoi est-ce que je fais partie des derniers? Je ne sais pas. Ironie de l'histoire, peut-être. En tout cas, ça me permet de faire cet enregistrement que vous écoutez Dieu sait quand. Vous êtes peut-être un archéologue, un aventurier, ce que l'on appelle aujourd'hui un éco-terroriste, un enquêteur, un militaire. Un militaire, je n'espère pas, même si, à mon avis, je ne risque plus grand-chose. Je fais cet enregistrement pour témoigner de ce qui s'est passé. Car tout cela va être effacé de l'histoire. Tout cela est déjà effacé de l'histoire. On évacue Los Angeles et pratiquement personne ne sait ce qu'il se passe ici. C'est pourtant peut-être ici, à Los Angeles, que quelque chose de nouveau va démarrer. En tout cas, c'est ici que quelque chose d'ancien, je pense, s'est arrêté. Après la destruction, après les morts, après tout ce gâchis, on essaie d'effacer le nom de Los Angeles de l'histoire. L'évacuation a pris 3 mois, bientôt ça sera mon cas. Je casserai cet enregistrement, ici, dans les ruines du D-177. Peut-être que quelqu'un y trouvera, peut-être que quelqu'un... Alors, aura à cœur de transmettre la vérité, ou du moins de la chercher, car ce que je vais vous raconter, même si c'est la vérité, n'explique pas ce qui a bien pu se passer. Je m'appelle Loun Eremidies, et je suis un spacon, un vrai, en ce sens que je suis réellement né dans l'espace, dans le noir et le vide de l'espace. Bien sûr, sur mes papiers, on a mis le nom de l'endroit où mes parents allaient prendre leur poste de policier, et donc officiellement, je suis né à Ashan 2. Mais en réalité, je suis un vrai spacon, malheureusement. Comme tous les spacons, dès que je suis dans une atmosphère naturelle, je dois porter un conner, un respirateur. Déjà, premier handicap. Mais en tant que spacon, c'est normal. Généralement, on reste dans l'espace pour ne pas avoir ce problème-là. L'autre handicap des spacons, ce sont les effets des rayonnements. Et là, malheureusement, j'ai un réel problème. Je suis réellement handicapé. J'ai la maladie d'Arnitz. Sans doute due à mon lieu de naissance, réellement dans l'espace. Mes cellules sont hypersensibles au rayonnement, que ce soit le rayonnement cosmique, ou même simplement certains rayonnements solaires. Impossible pour moi de vivre dans l'espace. Mes parents ont donc très rapidement cherché une planète où nous pouvions nous installer. Quel que soit l'endroit, même sur une planète, même avec la protection d'une atmosphère, je dois vivre avec une combinaison anti-rayonnement. Et puis, pour un spacon, une planète, c'est forcément une gravité plus forte que ce que l'on peut avoir à bord des vaisseaux ou à bord des stations spatiales. Je suis un espèce de lourdeau avec un conner et toujours obligé de porter une combinaison. Ma malédiction, mon handicap, qui m'a frappé professionnellement et personnellement. Enarsemis est une petite planète qui avait les caractéristiques permettant de limiter mon handicap. Petite, donc avec une gravité pas forcément trop forte, forcément plus forte que dans l'espace, mais limitée. Une atmosphère suffisamment dense pour pouvoir couper déjà mon corps d'une partie des rayonnements, et pas trop dense non plus, car alors le conner a du mal à faire son travail, on respire mal, et surtout il faut changer les filtres plus souvent, et c'est cher. Heureusement, on ne paye pas le tout le temps, mais néanmoins, c'était difficile. Me voilà donc, lourdeau, avec un conner, portant une combinaison, pratiquement tout le temps. Mes parents, policiers, ont trouvé assez rapidement du travail. Enarsemis n'était pas particulièrement florissante, mais la population était déjà de près de 700 millions d'habitants. Une vraie planète, beaucoup plus qu'une colonie. Nous y avons été, si ce n'est heureux, du moins loin des ennuis, malgré mon handicap, jusqu'à mes 15 ans. Date à laquelle mon père est mort, comme on dit, tué au cours du service. Ma mère a tenu jusqu'à mes 17 ans et mon entrée à l'école de police, avant de se suicider. À partir de ce moment-là, j'ai suivi leurs traces et oublié un petit peu mon handicap. J'étais brillant, motivé, j'avais des bons résultats. Le problème, c'est qu'avec les années, mon handicap a fini par se faire sentir. Ce fameux plafond de verre, une expression que l'on a inventée il y a bien longtemps. Je ne pouvais plus grimper dans la hiérarchie. Les épreuves physiques sur le terrain, avec l'âge, me devenaient plus difficiles, et la vie de bureau m'était insupportable, puisque je ne pouvais monter en grade. C'est un des facteurs qui a fait que les choses ont mal tourné. Mon épouse, ambitieuse, brillante, comme moi, avait partagé le début de notre vie de couple avec enthousiasme. Chacun dans son domaine, nous grimpions, nous étions de plus en plus à l'aise, de plus en plus reconnus, de plus en plus riches. Sa famille avait vu d'un mauvais œil qu'elle épouse un policier. Mais après tout, l'amour. Nous avons eu une fille, Et puis nous avons vieilli ensemble, et les choses ont commencé à se désagréger. Bien sûr, j'étais moins joyeux à la maison, mais surtout, je gagnais moins. Et de toute façon, ma fille, qui aurait bien voulu se payer des voyages, comme les camarades de l'école UP où elle allait, partir quelques semaines, visiter les autres planètes du système, ne le pouvait pas. Financièrement, pour moi c'était compliqué. Et pour mon épouse, dans son milieu, partir en voyage, autrement qu'en famille, tous les trois, c'était inenvisageable. Nous étions donc collés, attachés à Enarsemis, et ma fille, en pleine crise d'adolescence, se mit à me détester. Cela empirait avec le temps. Ma relation avec mon épouse s'en ressentait. Les choses devenaient invivables. Ma fille a attendu ses 17 ans pour annoncer, la loi l'autorisant, qu'elle nous quittait. Et mon épouse, bien sûr, prit la décision de partir avec elle, pas question de la laisser toute seule. Ça a été là mon erreur. Pour les protéger, c'est moi qui ai demandé le divorce, et elle m'a dépouillé. D'une certaine manière, ce fut le déclic. Mon handicap, qui m'avait coûté mon rêve au travail, qui venait de me coûter ma famille, me libérait de l'un et de l'autre. J'allais enfin pouvoir réaliser un rêve que je faisais depuis quelques années, justement à cause de mon handicap et de ce métier. Le Graal, intégrer l'IAMAS. Je savais que ce serait difficile, qu'il faudrait travailler très très dur, mais maintenant que je n'avais plus d'attache, les choses étaient possibles. J'ai joué de quelques vieux contacts, une demande de service, un prêté pour un rendu. Ils étaient bien contents de pouvoir se débarrasser de la dette qu'ils avaient sur la tête. Ce fut difficile, mais la chose se fit, et Los Angeles pouvait m'ouvrir ses bras. Le recrutement était compliqué. Déjà, il y avait peu de candidats, et la plupart, avec des motivations telles que l'argent, risquaient de ne pas tenir longtemps. Ils avaient du mal à trouver les gens qui pourraient effectivement signer un premier contrat de 3 ans et aller jusqu'au bout. Et on ne parle même pas du fait de le renouveler. Alors, par ces contacts, ils étaient plutôt contents de mon arrivée. Déjà, les voies détournées par lesquelles j'avais réussi à leur faire passer mon dossier leur montraient à quel point j'étais motivé. Et puis le patron avait été sympa. Il avait fait un très beau courrier. Je pense d'ailleurs qu'il n'avait pas menti, et qu'il pensait réellement tout le bien qu'il avait écrit de ce qu'il pensait de mes 20 ans de service. Mais voilà, j'avais pris cette décision, je devais partir, il le savait. Pour Los Angeles, c'était formidable. Un policier, de très bons états de service. Ensuite, ce fut avec l'IAMAS que ce fut plutôt drôle. Contrairement aux recruteurs de Los Angeles, eux coulaient sous les demandes. Il n'y avait pas besoin de passer par des voies bizarres, juste de passer sur le réseau et d'envoyer sa candidature. L'IAMAS, c'est la police des villes virtuelles. Pour moi, c'était le Graal. Après tout, dans une ville virtuelle, on prend l'avatar que l'on veut. Je n'avais plus besoin de porter de conner. On n'avait plus besoin de me voir bateau avec mes combinaisons. Je pouvais travailler de chez moi, en atmosphère spécifique, si je voulais, protégé des rayonnements. Si je voulais, je ne sortais plus de chez moi. Et pourtant, je continuais à être policier. Je continuais à suivre les voies de ma mère et de mon père. De faire ce que j'avais dans le sang, ce que mon père avait toujours fait. Faire en sorte que le frottement entre les gens ne produise pas des étincelles, comme au temps préhistorique entre deux silex, mais plutôt la bonne farine, comme au temps pré-technique entre deux meules de pierre. Le meilleur de l'humanité. Préserver cela, le pousser, sans avoir à traîner mon handicap. Pour l'IAMAS, les motivations étaient nombreuses, et les candidats encore plus. Mais 20 ans de service, forcément, eux aussi, ça les arrangeait bien. L'échange que j'ai eu par écran interposé avec le recruteur se déroulait plutôt positivement, et j'attendais évidemment la question piège. Ça a failli me refroidir quand il m'a dit « Quelle expérience vous avez des villes virtuelles ?» Et là, il a bien fallu lui avouer que je n'y avais jamais mis les pieds. Il a été assez catégorique. Ah, évidemment, les 20 ans d'expérience l'intéressaient, mais son métier, malheureusement, n'était pas d'essayer de repérer les meilleurs. C'était plutôt de dégommer 999 candidats sur 1000 pour faciliter le travail à ceux qui, derrière, feraient la vraie sélection. C'est donc assez froidement qu'il m'a dit « Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement, ça va être long, ça va être cher. Bien sûr, en tant que policier, vous aurez des facilités pour intégrer l'IAMAS. Mais d'abord, vous devez devenir citoyen des villes virtuelles. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Il va bien falloir y descendre et y faire votre trou. » Et à ce moment-là, j'ai su que Los Angeles était la bonne solution. J'ai vu son visage se figer et le masque de froideur presque se craqueler, presque un simili-sourire qu'il effaça rapidement. Quant à la question « Alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Il va vous falloir une ligne et un abonnement. » Et que je lui ai répondu « Unlimited, unlimited. » Ça, il n'avait jamais dû l'entendre. Des placones, ceux qui sont nés sur une planète, mais qui ont quand même besoin d'un conner, ou des platones, les habitants normaux, les humains normaux des planètes. Ceux-là, il en voyait souvent, surtout des placones, qui eux aussi rêvaient de pouvoir vivre dans un environnement spécifique, ne plus avoir à sortir de chez eux, tout en gagnant de l'argent et en vivant une vie normale dans les villes virtuelles. mais personne n'avait osé lui dire qu'il avait les moyens de se payer une ligne illimitée et un abonnement illimité avant même d'avoir fait la moindre descente. Ça, je le devais à Los Angeles. C'était un des petits bonus. On pouvait demander ce qu'on voulait. Bien sûr, la ligne était illimitée. Ça leur coûtait tellement peu cher. Les échanges commerciaux étaient tellement énormes que les quelques humains à qui ils faisaient ce cadeau-là ne représentaient rien en termes de coût. Quant à l'abonnement illimité pour les villes virtuelles, pareil, un bonus. Oh, j'allais sans doute en payer un petit peu. Quelle importance. Le salaire était intéressant, mais de toute façon, ce salaire n'en voyait pas la couleur. Il serait intégralement versé sur un compte bloqué que je retrouverais quand je rentrerai, là ou ailleurs. Et oui, c'est que Los Angeles, quand elle recrute, elle vous paye le voyage depuis n'importe où. Et quand vous terminez votre contrat, pas quand il est rompu, quand vous le terminez. Alors, pareil, il vous offre le billet, pour où vous voulez. Et là, on retrouve l'argent qu'on a pu gagner et que forcément, on n'a pas pu dépenser. Alors, peut-être que ce salaire sera un petit peu réduit pour me payer un abonnement illimité. Quelle importance. 3 ans sur Los Angeles, j'étais sûr de pouvoir devenir citoyen des villes virtuelles. Et ensuite, à moi Liamas, j'avais plus qu'à rentrer, à me faire construire une maison avec atmosphère spécifique. Et je pouvais alors réaliser mon rêve. Aujourd'hui, c'est paradoxal. Je me souviens de l'immense émotion que j'avais ressentie quand j'avais ouvert mon compte et créé mon avatar dans les villes virtuelles. Presque plus d'émotion à ce moment-là que quand j'étais arrivé à Los Angeles. Aujourd'hui, 4 ans après, je quitte Los Angeles dévasté. Je ne sais pas si je vais rejoindre Liamas. Cette histoire va potentiellement me suivre. Ils vont me suivre. Peut-être même je n'arriverai pas vivant à l'endroit où j'ai demandé de retourner. J'en ai presque les larmes aux yeux quand j'y repense. Quelqu'un, je n'ai jamais su qui, connaissant mon handicap, avait fait une étude rapide de l'exposition au rayonnement sur toute la planète pour trouver l'endroit où je serais potentiellement le moins en danger. Et sur le D-177, on avait simplement demandé aux responsables de la sécurité d'aller voir ailleurs pour que je puisse, moi, m'installer à cet endroit. J'ai fait remonter mes remerciements par voie hiérarchique. J'espère que cette personne les a reçus. En tout cas, je n'ai jamais su qui c'était, on ne m'en a jamais parlé. Ce jour-là, c'est le responsable de la zone D qui me présentait l'endroit où j'allais m'installer. Il était content. Un flic, 20 ans, motivé, voilà qui changeait un peu des candidats habituels qu'il pouvait avoir. Los Angeles est une petite planète perdue dans l'espace. Pour moi, c'était très bien, la gravité était faible. Quant au Conner, de toute façon, tout le monde en avait besoin. Spacon, Platon, Placon, personne ne pouvait respirer l'atmosphère. Du coup, peu de différence. Quant au rayonnement, ma foi, peu importe que je trimballe plus ou moins lourdement ma combinaison, ils avaient fait en sorte que mes appartements soient protégés, et comme généralement la plupart des réunions se tenaient sous terre, je pouvais m'en passer. Pour le reste, bien je n'avais guère l'intention d'aller me promener à l'extérieur, et de toute façon, c'était fortement déconseillé. Los Angeles est une planète au milieu de nulle part, dans un système solaire au milieu de nulle part. C'est la seule planète jugée habitable par le Human Survival Institute. Sa malchance, si l'on peut dire, c'est d'avoir été au croisement de grandes routes commerciales entre différents systèmes qui, eux, ont une grosse population, et donc des échanges commerciaux importants. C'est donc devenu une planète entrepôt, comme il y en a quelques autres, un peu partout dans l'espace. Un endroit où on va stocker, temporairement, tout ce que les systèmes un peu lointains peuvent vouloir s'exporter, avec des notions de taxation et de stockage moins chères, à un endroit où il n'y a pas d'habitants, par rapport à des planètes surpeuplées, où le moindre mètre carré coûte trop cher, simplement pour entreposer les conteneurs. Il y a 24 zones, notées de A à X, avec à chaque fois un nombre d'entrepôts qui va de 150 à 200. Le D-177, et donc dans la zone D, c'est le numéro 177, il fait à peu près 17 000 hectares. C'est un entrepôt dit léger, c'est-à-dire qu'on n'y entrepose ni produits dangereux, ni produits militaires, ni produits trop lourds. Ce que j'avais sous les yeux était colossal. On me l'avait bien décrit, mais le fait de le voir, du haut de cette falaise, était impressionnant. Il occupait pratiquement toute la vallée. Et le responsable m'expliquait comment les choses se passaient. On avait mis des entrepôts un peu partout à droite à gauche, parce que ça coûtait trop cher de terraformer par-ci, terraformer par-là. On cherchait les endroits où on pouvait mettre les entrepôts et on les mettait à cet endroit-là. Du coup, chaque vallée était remplie. La planète était plutôt montagneuse. On touchait pas aux montagnes. On commençait par détruire et à raser tout ce qu'il y avait. Des petits vaisseaux avec des micro-bombes faisaient sauter les arbres, les rochers. Ensuite, on aplanissait avec une espèce de vaisseau comme on peut le faire dans les jardins, avec ces espèces de gros rouleaux. Sauf que là, ça aplanissait sur 200 mètres de large, avec un vaisseau qui pesait plusieurs dizaines de tonnes. On remplissait les trous avec la terre qu'on avait récupérée à droite à gauche, et une fois que c'était terminé, il n'y avait plus qu'à faire le sol. Oh, là aussi, pour le D-177, pas besoin d'avoir un vrai sol. Pour les entrepôts dans lesquels il y avait des matériaux lourds ou dangereux, il y avait des dalles de béton. Ça coûtait les yeux de la tête, et du coup, le stockage dans ces entrepôts était beaucoup plus cher. Pour le D-177, ça n'était pas nécessaire. Le matériel n'était pas assez lourd, alors on avait vitrifié. Là aussi, c'est un vaisseau spatial spécialisé qui vitrifiait des dalles de 50 mètres par 50 mètres, avec une chaleur telle que la couche de silice que l'on avait préalablement déposée se solidifiait pour une épaisseur de pratiquement 10 cm. Le vaisseau faisait une première dalle, puis ensuite passait à la suivante. La silice se mélangeait alors avec la dalle d'à côté, et on pouvait avoir l'impression d'un seul tenon entre les dalles. Quand il y avait un petit peu de jeu, le vaisseau s'en rendait compte, alors il allait, d'une certaine manière, tirer la deuxième dalle pour qu'elle soit totalement jointive avec les précédentes et faire un raccord. Il paraît qu'au début, on voyait le sol à travers les 10 cm de verre et que les raccords se voyaient parfaitement. Puis forcément, avec les années et le fait que tous ces containers en métal pouvaient rayer le sol, non seulement on ne voyait plus ce qu'il y avait en dessous, mais il fallait un œil exercé pour savoir quand est-ce qu'on passait d'une dalle à une autre. Voilà, 10 cm de verre. Ensuite, on montait les hangars. Il fallait protéger de la pluie, mais surtout protéger des météorites. Et puis, les rails, les robots qui chargeaient et déchargeaient, à côté de l'immense plateforme, qui elle, par contre, était en béton, pour permettre les atterrissages et les décollages des petits transporteurs. Les gros vaisseaux de transport, évidemment, ne s'approchaient pas. Ils restaient en orbite haute, et ensuite, il y avait ces petits transporteurs que l'on chargeait là-bas dans l'espace, qui arrivaient ici, qui déchargeaient leurs containers, et que les robots récupéraient pour ensuite les rentrer dans leur hangar. La maladie d'Arnitz, ici, faisait sourire. Car bien sûr, le toit du hangar était traité non seulement pour arrêter la pluie, mais aussi pour arrêter les rayonnements, pour protéger ce qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, je pouvais presque me promener sans avoir besoin de combinaison. Sachant que les lieux de vie et les lieux de réunion, eux, étaient au sous-sol. Et là, par contre, ce n'était pas un problème de rayonnement. C'était un problème de météorites. 99% d'entre elles arrivaient à la surface sous forme de grosses poussières, parfois de petits cailloux. Ça faisait souvent du bruit, les impacts que l'on finissait par ne plus entendre. De temps en temps, elles étaient plus lourdes, plus grosses. Potentiellement, ça posait un trou dans la toiture, ou ça la déformait, il fallait intervenir. Si l'une rentrait, elle était arrêtée par le conteneur. Et puis de temps en temps, on avait une vraie chute de météorites qui traversait le plafond et qui venait endommager la marchandise. Là, il fallait réagir vite. Et il y en avait quand même assez régulièrement. Alors, nous vivions dans des bunkers au sous-sol. Je dis nous, façon de parler. Pour le D-177, je m'occupais de la sécurité, parce que j'avais deux personnes qui s'occupaient de la logistique. Les deux seuls humains. J'avais sous mes ordres une trentaine de robots dirigés par trois intelligences artificielles. C'était ça la sécurité. Eux avaient plus de 150 robots sous leurs ordres. C'était autre chose. J'avais sous les yeux l'endroit où j'allais vivre les trois prochaines années. L'endroit où j'allais pouvoir devenir citoyen des villes virtuelles à raison de 2 à 3 heures par jour. Le responsable m'avait dit, ici, il n'y a que trois grands dangers pour la sécurité, vos trois ennemis. Vous devrez y penser tous les jours. Et c'est sur ces ennemis-là que l'on vous attend. Les statistiques varient d'un entrepôt à l'autre. Alors disons, par ordre global de probabilité. Votre premier ennemi, c'est la grosse météorite qui défonce le toit et qui abîme le matériel. Il faut, de manière extrêmement rapide, valider les dégâts, mettre en quarantaine tout ce que l'on peut, faire en sorte que les allées et venues de chargement et de déchargement puissent continuer sans problème. Et là, croyez-moi, vos deux collègues de la logistique ne vous rateront pas si jamais sur une allée pour robot transporteur, vous laissez des restes de containers traîner plus de quelques heures. Et puis évidemment, il faut réparer le toit. Et puis toute la paperasserie, enfin, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça, globalement, chez vous, environ une fois par mois. Vous verrez, c'est la routine. On n'y peut rien. Le deuxième problème, celui-là, plus difficile à détecter, c'est l'instabilité de ce qu'il peut y avoir dans les containers. Personne ne sait ce qu'il y a dans les containers à part les compagnies. Alors des fois, vous avez des produits un peu bizarres, qui vieillissent mal, qui interagissent avec les parois du container ou avec ce qu'il peut y avoir autour. Là aussi, ça peut être dangereux. Il peut y avoir des explosions, il peut y avoir de la corrosion, du poison. Faut ouvrir l'œil. Le troisième, c'est le grignoteur. Je vous le dis tout de suite, on va vous casser les pieds. Toutes les semaines, vous aurez un rapport à faire. La compagnie, les deux premiers cas dont je viens de vous parler, elle s'en moque. Le premier, elle est assurée, ça arrive tellement régulièrement, c'est juste un problème de statistiques et de frais. Le deuxième, c'est relativement rare. Et généralement, on se retourne contre la compagnie de transport, donc ça les embête moins. Par contre, le grignoteur, ça c'est très très énervant. Ça donne une très mauvaise image. On détecte souvent ça bien longtemps après, et les effets peuvent être catastrophiques. Je vous rassure, ça arrive tout de même assez rarement. Mais sachez qu'on vous cassera les pieds et que ça sera votre sujet numéro un, systématiquement, dans les échanges, dans les rapports. Et si jamais vous êtes inspecté, vous devrez être, sur ce sujet-là, absolument inattaquable. Comment ça marche? Une planète entrepôt. Un vaisseau arrive, se met en orbite basse, et puis nous avons nos transporteurs qui vont récupérer les conteneurs, qui les posent sur votre dalle de béton, et là vous avez nos robots transporteurs qui les prennent et qui les mettent quelque part à l'intérieur de votre entrepôt. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le conteneur, pour nous, juste avec la manutention, il va y avoir deux moyens de le connaître. Le premier, c'est sa plaque d'identité. C'est grâce à ça qu'on sait à qui il est, qu'on peut donc le retrouver pour le livrer le jour où potentiellement quelqu'un viendra pour l'enlever. Et puis on fait quand même quelques vérifications. La seule qu'on peut faire, bah c'est le poids. Généralement, le poids qu'il y a dans un conteneur ne bouge pas avec les années. Donc on prend un conteneur, il a une fiche d'identité, dans la base de données chez nous, on l'inscrit avec son poids, et puis le robot l'inscrit à l'endroit où il l'a mis. Le problème, vous voyez, les entrepôts ne sont pas très hauts. On ne sait jamais quand est-ce qu'un conteneur va arriver et quand est-ce qu'un conteneur va partir. Ça doit se faire le plus rapidement possible. Donc pas question de les empiler les uns sur les autres. Vous n'avez qu'une seule couche de conteneur, un seul étage. Et sur les robots qui font les manipulations, il y a ceux qui les emmènent à l'intérieur, il y a ceux qui les sortent, il y a ceux qui les récupèrent dans l'espace intermédiaire, qui vont les placer là où ils peuvent, généralement le plus près possible pour aller vite. Et ensuite, il y a les autres qui, eux, vont essayer de ranger les conteneurs intelligemment en fonction des places qui se libèrent, en fonction des dégâts que vous pouvez avoir à cause de météorites qui en a écrasé plusieurs. Du coup, la base de données pour savoir où ils sont, des fois, c'est un petit peu compliqué. Le grignoteur, il joue là-dessus, et ça peut nous coûter très cher. On prend un conteneur, on le remplit avec de la ferraille, un truc lourd qui justifie qu'il y a de la marchandise, mais qui n'a pas de valeur. Et puis, on met un grignoteur. Une fois que le conteneur est en place, le grignoteur détecte si jamais il y a des robots autour, il fait un trou dans le conteneur et il sort. Vous imaginez bien qu'ici, on n'a pas de vol, va pas y avoir des détecteurs partout. À part les robots qui passent, et encore, eux-mêmes ne sont pas équipés pour ce genre de choses, rien ne peut inquiéter le grignoteur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, grâce à son scanner, il va essayer de trouver un conteneur dont le poids a l'air d'être à peu près similaire au sien. Quand il l'a trouvé, il détache la fiche d'identité, il fait l'échange, puis il retourne dans son conteneur à lui. Et il peut dormir. Un jour, un petit peu plus tard, celui qui a livré ce conteneur grignoteur reçoit de son client l'ordre de récupération. Et évidemment, au lieu de lui livrer la ferraille avec le grignoteur, eh bien, on lui en livre un autre. Ah, c'est le grand hasard. Aucune idée de ce que le voleur va pouvoir récupérer dans son conteneur. Ça aura, de toute façon, beaucoup plus de valeur que de la ferraille. Ce qu'on a ici, vous imaginez le coût de transport et le coût de stockage, c'est forcément quelque chose de valeur. Alors, quoi que ça puisse être, le voleur rentre largement dans ses frais. Voilà. C'est ça votre boulot. C'est ça votre boulot, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Le reste du temps, ben, de toute façon, vous êtes quand même là. On vous déconseille de sortir. Vous en avez pour 3 ans. Du moins, nous l'espérons tous. Car ils sont nombreux, les candidats qui viennent, que ça soit comme pour vous, pour la sécurité, ou pour la logistique, qui finissent par ne pas tenir le coup. Tout seul, au milieu de nulle part, juste avec une ligne. Souvent, ça leur coûte très cher, mais ils décident de partir avant la fin. Ou alors ils tiennent 3 ans, mais ils font rarement plus. Et un dernier conseil, vous avez intérêt à bien vous entendre avec les deux autres. Les seules personnes vivantes que vous avez autour de D-177. Enfin, personnes vivantes, je veux dire humains. Évidemment, je ne compte pas les anges. Les anges. Eh bien oui, la planète ne s'appelle pas Los Angeles pour rien. Ça a été la malchance pour cette planète d'être la seule habitable de ce système solaire, lequel système solaire est le seul à être à peu près à la croisée des chemins. Du coup, les compagnies ont décidé d'en faire une planète entrepôt. Ils n'avaient pas trop le choix, c'était le plus simple, sinon il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Oh, à l'époque, ça n'avait pas été simple. Seulement, depuis toujours, le pouvoir de l'argent a toujours emporté sur le reste. Le Human Survival Institute s'est pourtant battu, mais, après tout, il n'était pas là pour défendre une quelconque vie extraterrestre. Il était simplement là pour défendre la vie humaine qui se dispersait un peu partout dans l'espace, à travers la galaxie. Et donc, finalement, on avait bien ravagé cette planète, malheureusement. Car les premiers qui l'avaient trouvée, un peu par hasard, avaient ramené la légende qui avait donné le nom à la planète, Los Angeles. Et quelques siècles, les lamantins qui reposaient dans les eaux chaudes en Amazonie, sur l'ancienne Terre, avaient souvent été pris pour ce que l'on appelait les sirènes à l'époque. Un moyen de faire le lien entre un animal de légende et un animal qui existait et qu'on pouvait voir tous les jours. Sur Los Angeles, c'était la même chose, sauf que là, il ne s'agissait pas de lamantins. Les premiers hommes qui avaient débarqué en avaient été terriblement choqués. Effectivement, il y avait bien des anges. Ils avaient des ailes, ils volaient, et c'était des créatures plus ou moins humanoïdes. Oh, clairement animal, pas d'intelligence. Sans doute le plus gros animal de la planète. Assez bizarrement d'ailleurs, la planète n'avait que de petits vertébrés, puis les anges, et rien. On n'en savait pas grand-chose, Était-il omnivore, carnivore? Est-ce qu'il était au sommet de la pyramide alimentaire? Qu'est-ce qui justifiait effectivement une forme de vie de cette taille? Puis plus rien dans les niches écologiques en dessous, jusqu'à ce qu'on arrive à des espèces de rats ou des choses de cette taille-là. En tout cas, peu importait. On n'était pas là pour faire de la zoologie. Et donc, on avait commencé à installer un peu partout sur la planète les entrepôts, forcément aux endroits où ils vivaient, c'est-à-dire dans les vallées, dans les forêts, à l'endroit où la Terre était à peu près plate, pas dans les hauteurs, pas dans les montagnes, potentiellement dans les déserts arides, là on n'en creusait pas, mais au bord des mers ou dans les grandes plaines. Et ça avait été un massacre. Et encore aujourd'hui, régulièrement, avec les allées et venues des vaisseaux spatiaux, les quelques-uns qui avaient survécu et qui s'étaient retranchés à l'endroit où il n'y avait pas d'entrepôt, croisaient malheureusement un vaisseau et étaient déchiquetés. On ne comptait même plus le nombre de morts. De temps en temps, des pilotes peu habitués, je parle des pilotes évidemment qui étaient dans les vaisseaux en altitude, car les vaisseaux transporteurs entre les vaisseaux d'altitude et la Terre n'avaient pas de pilotes humains à bord. Ceux qui n'avaient pas l'habitude faisaient remarquer qu'ils avaient vu effectivement une forme sur leurs écrans. Les autres, blasés, finissaient par ne plus compter. J'ai eu la chance, la malchance pour certains, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire la chance, de ne pas en voir, enfin je veux dire, de près, car les seuls qu'on voit de près sont les cadavres déchiquetés. De temps en temps, au loin, au coucher ou au lever du soleil, on voyait des formes monter dans le ciel. Voilà tout ce que j'ai pu en voir. Los Angeles, les anges. Tout ça, ce sont mes deux comparses qui me l'ont raconté. Pas évidemment le responsable qui était parti après avoir vérifié que j'étais bien installé. Mes deux comparses le sont restés 3 jours. Après, ils me regardaient bizarrement. Le poissard. Fut finir par croire qu'ils avaient raison. Statistiquement, ça n'était jamais arrivé. J'étais installé depuis 3 jours, une énorme météorite qui tombe sur le D-177. Mon baptême du feu. Derrière, je me suis pas trop fait taper sur les doigts. Je venais d'arriver, je connaissais pas trop les procédures. Il a fallu pratiquement une journée pour dégager et réparer les dégâts. L'impact commercial était important. Mais bon, je venais d'arriver, tout le monde espérait que ma motivation ferait que je resterais au moins 3 ans. En haut lieu, on a passé l'éponge. Par contre, mes deux logisticiens, eux, n'avaient plus envie de rester avec moi. Pourtant, pendant ces 3 années, ça ne s'est pas reproduit. Enfin, je veux dire, pas plus que ça. Il n'y a pas eu de catastrophe, plus souvent qu'ailleurs, plus souvent qu'avec les autres. Que ça soit des météorites, oui, effectivement, en moyenne une par mois. La plus grosse d'ailleurs, celle qui avait marqué mon 3e jour. Ça n'est jamais arrivé avec de tels dégâts plus tard. Des containers vivants, comme on les appelait, oui, 2 fois, détectés suffisamment en amont, sans problème. Des grignoteurs, eh bien ma foi, comme on avait pu me l'expliquer, ça a fait mon actualité toutes les semaines. Je n'en ai jamais eu un. Par contre, le nombre de rapports, d'inspections et d'interrogatoires sur le sujet, je ne les compte plus. Enfin voilà. Le premier, persuadé que je portais malheur, a demandé à partir avant la fin de son contrat. On m'en a un tout petit peu voulu, mais après tout, il n'était pas motivé, il serait pas resté jusqu'au bout. Ça lui a coûté cher. Le problème, c'est que les deux ne sont pas partis en même temps, et que donc le nouveau a pu écouter toutes les histoires idiotes que celui qui était resté a pu lui raconter. Et du coup, lui aussi, me regardait de travers. Lui-même, l'ayant d'ailleurs raconté à celui qui était resté mais pas bien longtemps, se retrouvant seul avec un nouveau et avec un poissard, il profita de la fin d'un contrat d'un de ses collègues, ailleurs, au F-127, pour changer de poste. Et je me suis donc retrouvé avec de nouveau, eux-mêmes, le crâne farci par ses bêtises, comme quoi potentiellement je pouvais porter malheur. Enfin, c'est la vie. Moi, finalement, je m'en moquais. J'étais en train de faire le dernier pas avant d'atteindre mon rêve. 2 à 3 heures par jour, je descendais dans les villes virtuelles. Si tous ceux qui en rêvent savaient que j'avais une ligne illimitée, et surtout un abonnement illimité, au début, j'en prenais plein la vue. J'ai fait le touriste. Après tout, c'est le meilleur moyen de s'immerger. J'avais choisi une ville. Je me disais, en 3 ans, autant se concentrer tout de suite. J'en avais choisi une au hasard, une grande, en me disant qu'il y avait certainement besoin de plus de policiers à cet endroit qu'ailleurs. Oh, bien sûr, de temps en temps, lassé, mais aussi pour réellement devenir un citoyen. Il me semble d'ailleurs, mais je ne me souviens plus, que c'était indispensable d'en avoir visité au moins 2 ou 3. J'étais passé d'une ville à l'autre. En tout, j'ai fini par en connaître à peu près 15. Quand je dis connaître, disons que j'étais capable, sur les grands axes, de me repérer, mais bien sûr, celle que j'avais choisie, elle, je finissais par la connaître, sur les bouts des doigts. Les grands axes, mais aussi les petits, en haut, en bas, le multidimensionnel. Ubriel, celle qui allait devenir ma ville. Celle, en fait, qu'il était déjà devenu. Le D-177 était mortel, avec mes deux imbéciles, qui essayaient d'être le plus loin de moi possible. Or bien sûr, pour les réunions quotidiennes, ils se sentaient obligés de venir. Enfin, de temps en temps, pour des prétextes fallacieux, ça se faisait à distance. Mais la plupart du temps, on se retrouvait. Dans les bunkers, en sous-sol, il n'y avait aucun risque. Mais finalement, j'ai fini par comprendre que c'est ma présence même qui les inquiétait. Alors bon, j'étais sans doute le plus grand solitaire de Los Angeles. C'est peu dire, car déjà, celui qui a la vie sociale la plus riche sur Los Angeles est certainement 1000 fois plus solitaire que le plus solitaire que l'on peut imaginer dans n'importe quelle ville. Donc, Ubriel est réellement devenu ma ville. C'est un peu comme si je vivais là-bas, 3 heures par jour, et que je quittais la ville pour venir au travail le reste du temps. Comme si, quand je dormais, je retournais là-bas. C'était ma motivation, et c'est sans doute cela qui rassurait les responsables. Pour moi, le temps ne s'écoulait pas bêtement. Chaque jour, chaque semaine, j'étais capable de faire la liste des compétences, des connaissances que j'avais acquises. Chaque mois, un nouveau quartier d'Ubriel que je connaissais mieux que le mois précédent. Le temps passait, pour moi c'était une suite de victoires, des petits pas vers la citoyenneté, un grand pas vers l'Iamas. Alors, impossible de s'ennuyer, de vouloir retourner ailleurs à un endroit où je n'aurais pas les moyens de me payer ni la ligne, ni l'abonnement. Je faisais mon travail consciencieusement, il n'était pas question que je parte. Et comme prévu, alors que la fin des 3 ans approchait, je voyais allécher la prime que l'on allait me proposer pour remplir les 3 ans. Un grand malade à la compagnie avait lancé un programme qui calculait ce que coûtait en perte à la compagnie le fait de remplacer quelqu'un qui avait de l'expérience par un nouveau. Ça se chiffrait, comme ça avait pu se chiffrer pour moi le temps que j'avais mis au moment du premier incident pour remettre les choses en place, alors que quelqu'un qui aurait été là depuis 1 an ou 2 ans aurait fait beaucoup plus vite. Tout ça se traduisait par du temps, et le temps, c'était de l'argent. Ce programme remettait les chiffres en jeu tous les mois, en fonction des statistiques réelles de ceux qui arrivaient et de ceux qui partaient. Et ces statistiques étaient impitoyables. D'un point de vue des départs et des arrivées, elles variaient peu, et en fonction des incidents, du coup, elles faisaient monter ou descendre les primes. Ainsi, sur un premier contrat de 3 ans, on savait que 7% allaient abandonner avant la fin, malgré ce que ça pouvait leur coûter. Et à la fin des 3 ans, on savait aussi qu'il y aurait entre 12 et 15% qui accepteraient de rempiler. Et sur cela, on savait que 3% n'iraient pas au bout des 6 ans. Oh, pour cela, la compagnie était un petit peu plus généreuse et ça leur coûtait moins cher. En tout cas, la prime, qui dépendait de cela et des calculs compliqués qui se faisaient tous les mois pour savoir ce qu'avait coûté un incident trop long par manque d'expérience, tout cela faisait que les primes étaient particulièrement alléchantes et que j'ai presque voulu faire durer le suspense avant de leur dire « Allez, je rempile ». C'était il y a 2 ans. J'étais loin de me douter de la manière dont ça allait se terminer. Le début de la fin, ce fut il y a un peu plus d'un an. Pourtant, la journée avait commencé normalement. J'avais envie de marcher un peu. Je faisais une ronde dans une des zones. Ça m'arrivait assez souvent. Les deux autres avaient trouvé ça bizarre. Ils laissaient faire les robots. Moi, à force de me promener dans une ville virtuelle, j'avais envie de marcher, pour de vrai. J'avais appris à entendre les robots qui arrivaient et à me pousser pour les laisser passer. J'avais fini par apprécier cette espèce de ville virtuelle faite de gros blocs de containers entassés les uns à côté des autres, avec les grands axes et les petites allées. Exactement comme Ubriel pouvait l'être, mais sur une seule dimension. Ce matin-là, je marchais donc, par hasard, j'avais profité d'un gros transporteur pour m'emmener un peu plus loin que le cœur où j'avais l'habitude de faire mes exercices. Là, nous étions dans une zone qui avait été frappée il y a quelque temps. Comme le principe des premiers robots fourmis, juste au début de l'ère technologique, les robots avaient pris l'habitude d'agréger les containers. Et à partir du moment où une zone, pour une raison ou pour une autre, était vide, ils l'évitaient. Et ainsi, la zone, vide, grossissait de plus en plus, jusqu'à devenir un pan entier complètement désertique de l'entrepôt. J'ai été habitué à ces gigantesques clairières au milieu des forêts de containers, clairières qui, à un moment ou à un autre, pour une raison quelconque, allaient de nouveau se remplir. J'aurais bien voulu discuter de cela, ça aurait pu m'intéresser, la manière dont les intelligences artificielles plaçaient ou déplaçaient les containers, remplissaient les trous, les zones, comme des vagues, des reflux. J'avais noté ça pendant les 4 ans. des zones qui régulièrement étaient vides, même sans incident, puis qui ensuite se remplissaient. Sans doute des logiques logistiques de trajet de robot. Toujours est-il que ce jour-là, j'étais face à cette clairière, et donc, forcément, comme c'était au milieu, je ne risquais pas de le rater. La chose était tellement incongrue que je mis, je pense, plusieurs secondes à me ressaisir. Pratiquement dans l'obscurité, car les deux robots-lumière étaient au-dessus de moi, je distinguais une espèce de masse qui n'avait pas les coins carrés. Et de toute façon, qu'est-ce qu'un conteneur aurait fait tout seul dans une clairière? Prémonition, frisson de l'incertain, peut-être enfin du fait qu'il allait se passer quelque chose, j'ai peut-être eu peur à ce moment-là. Le premier réflexe, stupide, a été de m'approcher. J'étais sidéré. C'est seulement au bout de quelques pas que je me suis rendu compte de l'idiotie de ce que j'étais en train de faire. Il me suffisait d'envoyer le deuxième robot lumière au-dessus de la chose pour avoir une idée plus précise de ce que c'était sans avoir besoin de m'approcher. Ce que je fis, et c'est ainsi que le contour de la chose apparut dans la lumière crue du robot. Comme je vous l'ai indiqué, avec l'expérience, on finit par repérer, même après de nombreuses années, l'endroit où les plaques de 50 par 50, les plaques de verre, se rejoignent. Qu'elles soient vraiment bord à bord, ou qu'il y ait eu besoin de les ressouder par la suite. Je vous dis ça car ça a son importance. Au fur et à mesure que le deuxième robot lumière glissait lentement au niveau du toit vers la chose, je pouvais par les reflets voir les lignes qui m'en séparaient. La chose était non pas au milieu, mais à l'intérieur d'une dalle, pas à un croisement, pas à une jonction, ce qui rendait la chose complètement folle et complètement improbable. Mon premier réflexe fut de vouloir zoomer, comme si j'étais dans une ville virtuelle. Quelle folie! Alors, autre folie s'il en est, mais, après tout, quel danger pouvait-il y avoir? Je me suis approché, lentement. La chose avait à peu près la hauteur d'un conteneur, entre 2,20 m et 2,50 m, de forme à peu près oblongue, d'un diamètre d'environ 1,50 m. De loin, ça, j'avais pu l'estimer. En m'approchant, je comprenais pourquoi j'avais du mal à identifier non pas son contour, mais sa couleur ou sa texture. Ce que j'avais sous les yeux était impossible. C'était un peu comme si une poche de chaleur avait explosé sous la dalle, sous les 10 cm de vitrification, comme une espèce de bulle, comme si un souffleur de verre avait chauffé la dalle et avait soufflé à cet endroit-là. Soufflé presque trop, car la bulle avait explosé, mais elle n'était pas vide. En dessous, il y avait la terre, et ce que j'avais devant moi, c'était donc une sorte de collerette qui montait à 40 ou 50 cm, où l'on voyait effectivement l'épaisseur du verre, et tout le reste, une sorte de magma informe, mélange de roche, peut-être de terre et de silice, une sorte de basalte bariolé, craquelé. C'est bizarre les images que l'on peut avoir, les références culturelles qui restent avec le temps. Encore aujourd'hui, demandez à un enfant de dessiner une maison, il vous fera un carré avec un triangle pour le toit, alors qu'il y a belle lurette que les maisons aujourd'hui sont des bars avec plein de petites fenêtres. Et même les enfants qui, paraît-il, à l'époque, habitaient dans des tours, alors qu'il existait encore des maisons, quand on leur demandait de dessiner une maison, c'était toujours un rectangle avec un toit pointu. Bien moi c'est pareil. Quand j'ai regardé cette forme, de loin, avec évidemment une histoire d'échelle, j'ai pensé à une carotte. Le haut d'une carotte qui dépasse de la terre. Il n'y avait pas de fan, peut-être que je pressentais qu'il devait y avoir quelque chose d'enfoui sous la terre. Et ce que j'avais sous les yeux, c'était juste le haut de la carotte qui dépasse. Rond, un petit peu écrasé sur le sommet. Ça a été compliqué d'expliquer à quoi ça ressemblait en ayant utilisé cette image quand j'ai fait mon compte-rendu. C'était déjà difficile d'expliquer tout court que quelque chose avait crevé les 10 cm de vitrification, mais alors, pour un homme de l'espace, expliquer que ça ressemble à un bout de carotte qui dépasse de terre dont on aurait coupé les fans. Depuis quand est-ce que c'était là? Je m'étais approché suffisamment près pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de dégageant de chaleur, alors que, forcément, l'image que j'en avais, c'était celle du souffleur de verre. Il y avait bien eu une sorte de corolle. Il y avait donc forcément eu de la chaleur, il avait fallu faire fondre la couche de 10 cm de verre pour faire émerger cela. Mais c'était froid, et donc c'était arrivé déjà il y a un petit bout de temps. 4, 5, 6 semaines en arrière. Des événements, des secousses, un tremblement de terre, Une météorite qui aurait crevé le plafond sans qu'on le voie, mais non, le plafond était là. C'est effectivement quelque chose qui venait de l'intérieur, quelque chose qui venait du dessous et qui avait émergé. Et rien dans les semaines qui précédaient n'indiquait que la zone avait pu subir quoi que ce soit. Pourtant, les forces qu'il avait fallu auraient dû au moins faire vibrer la structure. Mais non, rien, aucune trace. La zone était vide. Alors bien sûr, les robots n'étaient pas passés par là, ils n'avaient pas été confrontés à cet obstacle sur leur route. C'est vraiment un hasard si, ce matin-là, j'avais décidé d'aller me promener précisément dans cette clairière. Sinon, ça aurait pu rester, longtemps, sans bouger, et sans que quiconque ne puisse donner l'alarme. Donner l'alarme, c'est évidemment ce que j'ai fait, tellement ça paraissait évident. De toute façon, c'était mon travail. Non pas que ça gênait quoi que ce soit dans le transport des containers, mais enfin, c'était suffisamment exceptionnel pour que je remonte l'information. D'abord, à mon responsable de secteur, au niveau D. Visiblement, il était embarrassé, et s'est remonté au responsable global de la sécurité. Lui, Denis, semblait aussi embêté que moi, quoique un peu schizophrène. D'un côté, ça ne gênait pas le commerce, ça ne gênait pas le transport des containers. J'avais fait un rapport, quelque chose me disait qu'il l'avait gardé pour lui, et que l'intermédiaire, le responsable de la sécurité au niveau D, avait bien vite supprimé le fichier et oublié tout ça. Comme si nous n'étions plus que deux à savoir. Deux à partager ce secret, qui, globalement, aurait pu ne pas avoir plus d'importance que ça, si on avait pu avoir une explication de la chose. Puisque ça ne gênait pas le commerce, peu importe, il suffisait de laisser cette zone un peu plus longtemps en quarantaine. De toute façon, on ne remplissait jamais totalement l'entrepôt. On condamnait définitivement cette partie, et on passait à autre chose. Mais, comme moi, était embêté par ce que ça pouvait représenter. Une telle force. Pensez donc. 10 cm de verre, fondu, sans qu'on entende rien, sans vibration. Et puis tout de même, cette chose. J'avais fini par lui expliquer l'histoire de la carotte. Peut-être que ça avait fait son chemin. Globalement, c'est presque inconsciemment qu'il en était arrivé à avoir peur de ce qu'il y avait en dessous. Mon descriptif ne sous-entendait absolument pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Mais voilà, la première image que j'avais eue, moi aussi, elle me faisait faire des cauchemars. Les ressorts administratifs de la compagnie étaient particulièrement tordus. À partir du moment où l'on voulait remplacer un robot transporteur, qui commençait à être un petit peu vieux, il y avait juste à appuyer sur un bouton, et dans les 24 heures, il était remplacé. Là, par contre, pour obtenir un système de surveillance, ce fut plus compliqué. Plus tard, j'ai découvert ou deviné que ça avait été surtout compliqué de l'obtenir sans avoir à se justifier et sans que personne le sache. Le responsable global de la sécurité ne tenait pas à ce que le secret soit éventé. Sur le moment, je n'y avais évidemment pas pensé. Enfin voilà, un système de surveillance. Une caméra, une intelligence artificielle, un système d'alerte. Ça ne m'empêchait pas d'y aller tous les jours. Tous les jours, de vérifier moi-même les capteurs. Tous les jours, le même rapport. Il ne se passait rien. Ça ne bougeait pas. Ça ne changeait pas de température. Ça ne vibrait pas. Ça n'émettait aucun son, aucun rayonnement. C'était totalement inerte, comme une espèce de rocher qui serait tombé là. Comme une grosse météorite qui aurait traversé le plafond, sans qu'on s'en rende compte. Qui aurait traversé le plafond sans le trouer, qui aurait fondu la dalle et qui serait resté là. Mais bien sûr, c'était impossible. D'abord, le plafond aurait été défoncé. Et ensuite, sous l'impact, il n'y aurait pas juste eu cette corolle de verre qui constituait presque la base de la carotte. Non, il y aurait eu un cratère, un impact. Le verre aurait été brisé. Non, décidément, ça ne collait pas. On ne savait pas ce que ça pouvait être. La peur des éco-terroristes était quelque chose de constant. On racontait qu'il y avait des communautés cachées quelque part dans les montagnes qui dataient de l'époque où on avait laissé les colons s'installer avant de les chasser pour ne mettre que les entrepôts. Ils auraient bien voulu venir nous combattre. Ma foi, ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre les entrepôts. Mais du coup, l'accès à Los Angeles était extrêmement réglementé. Il y avait très peu d'êtres humains sur cette planète. Tous les responsables étaient en orbite. En fait, c'était tout simple. Il n'y avait que 3 êtres humains par entrepôt. Tous les autres n'étaient pas censés être là. Et les mouvements n'étaient que, justement, ceux qui arrivaient ou ceux qui partaient. Je ne sais pas si cette histoire de communauté est vraie. Après tout, s'ils nous en voulaient, ça n'aurait pas été bien compliqué. Un petit commando, nous n'étions que 3. Évidemment, il n'aurait pas eu les moyens de combattre les robots, mais toute cette belle mécanique, tout toutes ces intelligences artificielles. Après tout, la compagnie payait très cher pour qu'il y ait 3 humains. Il aurait suffi de les tuer pour que la mécanique se grippe. Mais non, il n'y avait jamais eu d'attaque. Je me souvenais de ces histoires que mes deux collègues m'avaient racontées au début, avant de me tourner le dos. Ça m'avait étonné, mais effectivement, le responsable de la sécurité au niveau D ne m'avait jamais parlé de cet ennemi-là. Ah oui, ça, les météorites, bon, j'en avais soupé. Les grignoteurs, que de paperasserie, sans jamais en voir. Et puis, ce qu'on appelait les containers vivants. Mais les attaques, les communautés, rien. C'était déconseillé de sortir. Pourquoi ? Vraisemblablement à cause de l'atmosphère. On essayait quand même non pas d'avoir une atmosphère spécifique à l'intérieur, mais au moins elle était filtrée. Peut-être qu'à l'extérieur, c'était encore plus compliqué. Et que les connards auraient pris de l'encrassage plus rapidement, ce qui aurait été cher à la compagnie. Parce que, puisque la seule forme de vie de grande taille qui aurait pu être dangereuse, c'était les anges, et qu'ils ne risquaient pas d'y en avoir autour des entrepôts, bon, peut-être des insectes ou des serpents, je ne sais. Quel danger pouvait-il y avoir ? En tout cas, sortir était déconseillé. Je ne l'avais d'ailleurs pratiquement jamais fait. Alors, encore plus qu'un système de sécurité passé on ne sait comment, d'un entrepôt dans un transporteur, puis ramené jusqu'au D-177, faire venir un étranger, sans que ça alarme qui que ce soit, et sans qu'on pose des questions, ça avait dû être particulièrement compliqué. Ça me montrait aussi que le responsable global de la sécurité devait avoir le bras long, qu'en fait il devait pouvoir en faire des choses sans en référer à sa hiérarchie, sans même que quiconque ne puisse le savoir. J'en suis venu à me demander si ce n'est pas lui qui avait fait la fameuse étude de rayonnement et qui m'avait octroyé le D-177. Mais après tout, on échangeait régulièrement, pourquoi ne me l'aurait-il pas dit ? Bref, tout ça c'est du passé. En attendant, le bras long il devait l'avoir, car il faisait venir un étranger. Un responsable de la sécurité, quelqu'un qui avait de l'expérience. Ça a mis 3 mois pour qu'il arrive. Je sais pas où est-ce qu'il a été le chercher, mais là aussi, le transport a été particulièrement rapide. 3 mois, il a fallu un sacré vaisseau spatial pour amener celui qui, du coup, devait être une sacrée pointure. J'étais dans mes petits souliers quand il arriva. D'autant plus que, tout comme la caméra, il fallait faire ça discrètement et que les deux autres humains du D-177 ne devaient pas être au courant. Ça allait être facile. Enfin bon, voilà mon bonhomme, un petit vieux à lunettes, étonnant. Je m'attendais plutôt à un jeune bardé d'électronique. Lui, il vient les mains dans les poches, simplement pour voir, me dit-il. On verra par la suite. La suite, ça a été rapide. Il a été voir, tout seul, pendant que j'occupais les deux autres. Et puis il est revenu, m'a dit qu'il ne pouvait rien pour nous, et est reparti. Imagine le coup, juste un aller-retour, pour 30 secondes, et décliner l'invitation. Waouh, décidément, louche.